France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'enfant est radicalement innocent. Il n'a pas de sens du compromis, pas de théorie de la littérature. Il n'est pas corrompu par le capital ou par les productions culturelles qui constituent notre monde. Il pose pourtant toutes les questions que pose la philosophie. Le comment et surtout le pourquoi. Ce pourquoi des enfants en bas âge. Celui qui répétait 2, 5, 10 fois finit par nous mettre en face de notre incapacité à répondre à la question fondamentale du sens. Pourtant, il y a une chose, un besoin, que les enfants expriment tous sans exception. Le besoin de fiction. C'est ce besoin de fiction, caractéristique essentielle de notre humanité, cet aspect absolument vital de l'imaginaire, qui pousse Edward Bond à affirmer que seul le théâtre, ou le drama, comme il l'appelle, a le pouvoir de mettre en lumière l'humanité, l'amour qui peut exister et qui existe entre les êtres humains malgré tout. Ce « malgré tout » n'est pas léger, n'est pas anecdotique. Dans le théâtre de Bond, aussi imaginaire et fictif soit-il, notre monde est attaqué de tous les côtés, disséqué pour montrer l'épouvantable pourrissement de ses entrailles. Son langage est heurté, sans filtre, mais aussi scoliotique, marqueur de la difficulté absolue qu'ont ces personnages à s'exprimer. Car le langage, en plus de sa faiblesse essentielle à articuler les mouvements de l'âme, est un marqueur de classe, portant les stigmates de la souffrance et des traumatismes qui appartiennent à l'indicible. C'est donc souvent par des actes radicaux, parfois incompréhensibles pour les spectateurs, que les personnages de Bond s'expriment, pour se sortir d'une situation ou simplement pour enfin avoir une agentivité propre, dans un monde qui les pousse à s'autodétruire. Ce premier de deux épisodes d'Edward Bond, une dramaturgie en boucle, une série pour mégaphonie de Lucien Atoun, réalisée par Nicole Vuillaume, est consacré à deux éléments essentiels de la pensée et de la pratique théâtrale d'Edward Bond. L'enfant et l'imaginaire. On y entend le dramaturge lui-même, mais aussi Christine Friedel, les metteurs en scène Claude Régis, George Wilson et Gabriel Monet, la dramaturge Martine Millon, les traducteurs de l'œuvre de Bond Éric Kahn et Henri Béard, ainsi que Michel Dubois, directeur du Centre dramatique de Caen. Une émission diffusée pour la première fois le 23 février 1993 sur France Culture.
Ouais. Ici, c'est plus sûr. Il faut agir, Altesse. Victoria est au courant de notre complot. Elle a peur. Elle va annoncer les fiançailles du prince de Galles. Elle n'est pas populaire, mais elle sait qu'un mariage dans la famille royale apaisera le peuple. Il nous faut donc frapper sans attendre.
Exactement.
Voilà 5 ans que vous dites exactement.
C'est à cause de mes fils. Pas Georges, non. Le prince de Galles n'est qu'un jouet entre les mains de sa mère. Et dès que nous aurons tué Victoria, il mettra l'épouse. Mais son frère Arthur m'inquiète. Il faut qu'il se joigne à nous.
Je le souhaitais aussi, Altesse. Il est l'héritier en second du trône après Georges. Notre coup aurait une apparence de légalité, mais je vous le répète, il nous faut frapper sans plus attendre.
Je vais lui parler cette nuit même.
Encore ?
Pardon. Oh ouais. Vas-y. nuages. Nous voilà. Bien, Monica.
Mégaphonie. Lucien Atoun, Nicole Villaume. Mégaphonie avec la collaboration de Frédéric Arbouet. Aujourd'hui, Édouard Bond, une dramaturgie en boucle. Avec Michel Dubois, Martine Milon, Claude Régis, George Wilson. Et avec la participation de Henri Béard, Eric Kahan, Gabriel Monet et avec Christine Friedel, des spectateurs du Théâtre de la Ville. Et, traduite par Micheline Atoun, une interview exclusive d'Edouard Bond. Édouard Bond, une dramaturgie en boucle, première partie, l'enfant et l'imaginaire. L'affiche des théâtres français, Édouard Bond est présent d'une manière remarquable, avec d'abord deux créations, ce qui n'est pas une mince affaire, en particulier sous l'impulsion du Théâtre de la Ville et puis du TNP. On peut voir en France, ou on a pu voir en France, Jaquette ou La Main Secrète, qui est donc une création française assurée par Bruno Beuglin, mais on a vu auparavant La Compagnie des Hommes, c'est une création mondiale assurée par Alain Françon. Donc deux créations en quelques semaines en France. C'est un fait à signaler. Il y a des reprises comme Été par Jeanne Champagne à la Maison de la Culture de Bourges. Je veux dire par là que Édouard Bond est un auteur que l'on connaît en France depuis plus de 20 ans. La première fois, il a été joué en 1969. C'était à Nice avec Route étroite vers le Grand Nord. Il a été joué ensuite au Festival d'Avignon l'année suivante, exactement, avec Early Morning. Donc, Édouard Bond est connu en France, mais il ne s'est jamais imposé. Et c'est pour ça que nous avons mis à profit ces créations, ce retour de Bond en France, pour faire le point d'une dramaturgie très particulière, d'une dramaturgie importante en Europe, puisque Édouard Bond est considéré aujourd'hui comme l'un des auteurs les plus importants vivants. C'est un homme qui croit encore à son imaginaire.
In order to teach a child anything, you lie to it. You lie to it about the world. And that creates a world of falsehood for the child, a world of fictions. And I think that then what happens... You see, if you say to a child, I will tell you a story. Now, all children know what a story is. If you say to a child, two and two are four, he'll say, why? Mm. Or... why can't it be five or something? But if you say, I will tell you a story, it knows what a story is. It's very odd. Why should a child know what a story is? Mm. The child doesn't have a theory of literature. Adults have a theory of literature. A child knows what a story is. It's extraordinary. It knows it needs something which is fictional because that's the only way it can come to organize reality.
Est-ce que ça vous a surpris d'entendre sa voix? Vous la connaissiez, Georges?
Pas du tout, non.
Wilson.
Est-ce qu'elle est un peu, vous qui êtes sensible aux voix, est-ce qu'elle elle ressemble à l'idée que vous êtes fait quand vous avez abordé Early Morning, ou ça vous rappelle un souvenir quelconque, cette voix ou cet accent ou ce propos?
Ça me semble tout à fait naturel. Il a des musicalités en anglais, en tout cas, enfantine comme son œuvre. Il est plein d'attentes, plein de surprises. Il découvre les choses comme les enfants, quoi. Il a une voix justement du paradis perdu.
Oui. C'est-à-dire que si je vous pose la question à vous, c'est parce que je me souviens du Festival d'Avignon 1970, où vous nous présentiez Early Morning. C'était le titre en anglais du spectacle que vous avez présenté à Avignon, parce que quelques mois plus tard, lorsque vous avez présenté le spectacle au TNP, que vous dirigez, ça a pris un titre français, Demain la veille. Mais le soir de la première, à la cour d'honneur, c'était un événement manqué, d'une certaine manière. C'est-à-dire que certains avaient le sentiment que vous aviez eu raison de choisir cet auteur, que c'était très important d'avoir choisi cet auteur, et d'autres se demandaient qu'est-ce qu'il venait faire, surtout après mai 68, à Avignon.
Ce qui m'a vraiment séduit à la lecture de cette pièce de jeune auteur, bon, c'est que des problèmes qui nous concernaient, là, tout de suite, après les problèmes politiques, après ce que le TNP avait fait sur le plan de la justice, de la sociologie, ce que Villard avait fait, ce qui m'intéressait, c'était ce nouveau problème qui arrivait maintenant, qui arrivait là et qu'il fallait développer, c'était l'existentiel. Bon, après Beckett, il n'y avait plus rien derrière. Aucun auteur nous proposait quelque chose de fort sur l'état d'homme. Bon, alors, c'était bien sûr assez maquillé, assez transposé, mais les thèmes étaient là. Et peut-être mon travail n'a pas été assez didactique. Et j'ai pas montré assez, peut-être j'ai pensé que les signes suffisaient, mais je me suis trompé sûrement, mais j'en suis très fier d'ailleurs. Mais voilà. C'est une pièce sur l'anthropophagie. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai compris que, à ce moment-là, dans le monde, les hommes et les femmes s'entre-dévoraient moralement. C'était un monde, après le miracle économique, etc., on tournait un peu en rond, et on s'entre-dévorait. Et alors, l'image forte dans le théâtre, bon, j'ai dit, enfin, voilà une image forte, on voyait vraiment les gens se manger les uns les autres. C'était assez difficile, bien sûr. Il y avait aussi la dualité de la personnalité, c'est-à-dire, deux frères jumeaux étaient soudés l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient rien faire seuls. Automatiquement, l'autre qui était soudé n'était pas d'accord. C'était aussi une image forte. Et c'est ça d'Edward Bond. C'est qu'il montre avec des images des sous-entendus philosophiques. Et, bon. Et ça, alors donc, il y en avait un des deux qui mourait et l'autre était obligé de se trimballer le squelette attaché à lui. Ce qui est c'était une image encore. On se retrouvait entre gens sincères. La vérité arrivait et on se disait, alors on va vraiment se manger. Alors on se mangeait un morceau de bras, un morceau de pied. C'était naturel. En plus, il y avait une famille royale qui se haïssait. C'était le pouvoir qui était là. C'était tellement plein d'images que ça m'a semblé tellement, tellement flagrant que je me suis dit, voilà un auteur. Voilà un auteur d'une grande, grande force qui nous met devant le con, qui fait un constat. Et je l'ai monté. Malheureusement, et c'est toujours l'erreur qu'on fait souvent, c'est que on reste avec ses propres fantasmes et on se comprend soi-même et on se dit, oh, on va pas faire ça, ça serait pas digne du public. Mais si, parce que si on le montre pas, si on ne donne pas une notice explicative, bien souvent, on passe à côté.
Sa Majesté sera là dans un instant.
Cet après-midi, elle préside l'affaire du cinéma de Kilburn Street. Je m'en régale d'avance. Il paraît que la maîtresse de l'accusé a 30 ans de plus que lui.
Oui.
Il ne reste plus une place. Même au marché noir, tout est vendu.
Je suis aussi progressiste qu'un autre, mon cher Mennings. Mais en tant que grand chambellan, je reste partisan des procès à huis clos et des exécutions en place publique. Ça fait plaisir à la foule et ça facilite la tâche du gouvernement.
Mon Altesse le Prince Consort, Monsieur le Premier Ministre.
Pourquoi nous a-t-elle convoqué si tôt ce matin ?
Je n'en sais rien.
Vos Altesses Royales, le Prince de Galles et le Prince Arthur.
Arthur, avez-vous résolu l'énigme ?
Quelle énigme ? Eh bien, qu'est-ce qui brûle dans l'eau, se noie dans le feu, vole dans la terre et se couche dans le ciel ?
Qu'est-ce que c'est ?
Je ne sais pas.
Edouard Bond, nous sommes chez vous, dans votre maison, et... Je ne sais pas si la maison correspond à ce que je sais de vous à travers vos théâtres, puisque c'est la première fois que nous nous rencontrons. Vous savez qu'en France, vous avez 3 pièces de vous qui sont jouées cette saison. Et vous avez un long chemin avec la France, puisque je crois que la première pièce de vous a été montée en 1969 par Guy Lauzin. C'était la grande route vers le Grand Nord. Et il y a eu plusieurs étapes. Et les Français ont le sentiment de vous découvrir enfin cette saison. Est-ce que c'est normal ?
I hope not. It wouldn't be very complimentary to the French if I said it was normal, would it?
Ce serait pas un compliment pour les Français si je disais que c'est normal.
Ça commence bien. Alors, cela étant, nous, en France, on vous a vraiment découvert il y a très longtemps, et votre théâtre apparaît aujourd'hui comme un théâtre qui est à la fois fidèle à une tradition du théâtre shakespearien, par exemple, du théâtre anglais, du théâtre classique, mais qui essaye constamment de prendre en charge la contemporanéité, c'est-à-dire la vie de tous les jours, et ce qui peut se faire de caché, mais qui existe et qui conditionne la vie des uns et des autres.
I'm not really aware of anything that you would call theatre tradition. I'm interested in the theatre of Shakespeare. I'm interested in the theatre of the Greeks because it deals with.
Je n'ai pas vraiment conscience d'être lié à une tradition anglaise de théâtre, mais je suis extrêmement intéressé par Shakespeare et par les Grecs, dans la mesure où ces deux dramaturgies s'intéressent à des problèmes extrêmement de base, comme comment est-ce qu'on est et on grandit, comment est-ce qu'on crée une famille, comment est-ce qu'on élève des enfants. Et je pense que le théâtre est là pour élucider les problèmes de base. En réalité, je pense que l'être humain a un cerveau extrêmement théâtral.
I find that if I look at the theatre of the Greeks and Shakespeare, just to take 2 examples, but I mean, I would obviously say the same thing about somebody like Buchner or Wedekind or somebody Brecht. But the nature of the problem, that people are inhuman to each other, that is a perennial theatrical problem. It's what gives theatre its urgency, and by giving it its urgency, it gives it its art.
Je crois que le théâtre est là pour résoudre les contradictions de l'être humain, et à la fois la difficulté d'être humain, et à la fois la nécessité absolue d'être humain. Ce qui m'intéresse chez les Grecs et chez Shakespeare, mais je pourrais dire la même chose de Wedekind et de Brecht, par exemple, c'est dans quelle mesure on peut vivre son humanité et comment on peut surmonter cette contradiction.
And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, yeah, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be,
Comme vous le savez, Eric Kahn, quand on cherche une biographie très à jour de Bond, alors les souvenirs commencent à être un petit peu compliqués. C'est-à-dire que on dit texte français Eric Kahn, mais Eric Kahn dit à juste titre, attention, moi j'ai traduit la pièce de Bond. D'ailleurs, j'ai une preuve, c'est le livre, Christian Bourgois, il a écrit Édouard Bond, Route étroite vers le Grand Nord, et à l'intérieur, puisque c'est évidemment la couverture, il y a marqué, traduit de l'anglais par Eric Kahn. Mais ce n'est pas la pièce qui a été jouée dans cette traduction-là en 1969.
Non, en effet, c'est d'ailleurs un petit peu insolite et pas tout à fait normal. En réalité, Christian Bourgois, qui avait une collection de théâtre, trouvait cette pièce très belle et voulait la publier. Et je crois qu'il y a eu un petit souci avec l'auteur qui n'était pas entièrement en harmonie ou en phase, enfin disons d'accord avec le texte français qui avait été fait, et qui a souhaité ne pas être publié dans cette adaptation-là, ce qui fait que je l'ai faite pour Bourgois.
On joue une pièce donc de Bond qui s'appelle Route étroite vers le Grand Nord, je crois dans une traduction de Henri Béart, et on publie la pièce dans une version de vous, Eric Kahn, qui n'est pas jouée. C'est curieux, quand même.
C'est curieux, et s'il m'en souvient bien, parce que ça remonte quand même à très longtemps, je sais que au début, je ne voulais pas faire ça, je ne voulais pas la faire, parce que je trouvais que c'était déontologiquement très anormal. Et puis, il y a eu, je dis, cette insistance de Bond, puis de
Bourgois.
Et de Bourgois. Et donc je l'ai fait, mais j'ai des rapports, ou j'ai eu des rapports, ou plutôt des non-rapports très étranges avec Bond. Je crois que c'est le seul auteur dramatique dont j'ai traduit deux pièces. C'est le seul que je n'ai jamais rencontré et à qui je n'ai jamais parlé, même par téléphone.
Encore aujourd'hui
Oh bah,
même pas échange de lettres, rien, jamais.
Encore moins aujourd'hui, puisque ça fait 20 ans. Mais à l'époque, c'est très étrange. Je crois lui avoir envoyé une lettre en même temps que le texte de ses pièces, et je n'ai pas eu de réponse, et on ne s'est jamais parlé, je ne l'ai jamais vu physiquement et réciproquement.
Comment vous l'avez connu, vous, Henri Béart?
Moi, je l'ai rencontré à travers Jean-Claude Drouot, qui venait de tourner un film avec Ralph Richardson qui s'appelait « Laughter in the Dark ». Je crois que ça s'est appelé en France « La Chambre Noire ». C'était tiré d'une nouvelle de Nabokov. Et je crois que c'est à cette occasion-là que Jean-Claude Drouot avait rencontré Edward Bond. Et il avait été très intrigué par deux pièces qu'il avait lues, mais pas vues, qui étaient « Sauvées » et « Route étroite pour le Grand Nord ». Nous sommes allés donc à Londres, ensemble, et nous avons rencontré, à ce moment-là, Edouard Bond. Nous avons d'abord été voir les deux pièces. Lui, Bond était un petit peu surpris, je crois assez agréablement surpris, qu'il y ait des Français qui aient envie d'adapter à la fois Sauver Route étroite pour le Grand Nord. Et moi, j'ai trouvé que c'était quelqu'un d'extrêmement réservé, timide, très simple, très normal, très quotidien, très londonien. D'une part, la route étroite pour le Grand Nord était une chose extrêmement influencée par ce qu'il avait pu recueillir de culture extrême orientale, et route et Sauvé était quasiment en prise directe du reportage sur les quartiers ouvriers de Londres.
Lorsqu'en 1969, Edouard Bond est joué pour la première fois en France, donc à Nice, alors que Gabriel Monet dirigeait le Centre dramatique national de Nice et que le metteur en scène était Guy Lauzin, là, ça s'est plutôt mal passé.
Ben oui, effectivement, c'est arrivé. Il y a quelque chose qui n'a pas tout à fait collé, parce que je crois que le ton était très difficile à trouver, aussi bien au niveau du texte français que de l'approche de mise en scène. Ça n'est pas la faute ni de l'un ni de l'autre. Je crois qu'on n'avait pas trouvé le même. On ne dansait pas sur le même menuet. Mais ça arrive.
J'ai interrogé Gabriel Monet au moment où il avait créé dans son théâtre Route étroite vers le Grand Nord. Le metteur en scène était Guy Lauzin. Et vous ne pouvez pas savoir les ennuis qu'il a eus, puisqu'il va le payer très cher. Vous allez entendre sa voix dans quelques instants. Et d'abord, il faut quand même peut-être, pour resituer le débat, que Gabriel Monet nous dise de quoi il s'agit avec cette pièce de Bond, Route étroite vers le Grand Nord.
Eh bien, il s'agit là d'un vieux poète qui s'appelle Bachot, qui, lui, a passé sa vie à rechercher vers le Grand Nord l'illumination. Hein 29 années et demie, dit-il, je suis resté assis face à un mur dans le Grand Nord et je regardais l'espace. Puis un matin, j'ai soudain vu ce que je cherchais et j'ai reçu la grâce de l'illumination. Et je continue, j'ai vu qu'il n'y avait rien à apprendre dans le Grand Nord et que je savais tout avant de m'y rendre. On reçoit la grâce de l'illumination là où on se trouve.
Oui, alors il faut dire qu'il y a en face de ce personnage qui a de l'illumination, Bachot, il y a Chogo.
Il y a le petit Thiroux, le jeune Thiroux, le jeune
oui,
moine.
Oui, et puis il y a le dictateur qui a été abattu.
Chogo, oui. Alors, mais oui, mais parce que Bachot va faire accomplir à Thiroux une sorte de parcours initiatique. Il va lui faire parcourir toutes les arcanes de la vie politique d'alors, qui est la nôtre, enfin, qui en est complètement le reflet. Il va lui faire parcourir aussi les arcanes du mensonge religieux.
Oui, les assassins sont
de la culture.
Oui, Gabriel Monet, les assassins sont traités de barbares.
Ah oui, 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 tout à fait. Oui.
Et quand on pense que c'est un commodore anglais et sa sœur qui sont traités de barbares, on voit déjà l'humour.
Ah oui, 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 non, mais là, il y a, oui, le regard de monde se tournait malicieusement vers le pays où il est, où il se trouve. Alors voilà, ça a frappé un coup dans Nice que je ne soupçonnais pas. Alors j'ai été convoqué au conseil municipal de Nice, et ça, c'est une histoire qui vaut d'être racontée. Parce que là, j'ai été sommé de m'expliquer après des accusations que je ne veux pas relever ici, dont je ne me souviens même plus, sauf une. C'est un conseiller municipal qui m'a dit, écoutez, dans son accent inimitable, on a beaucoup de peine à ramasser les ordures dans Nice, alors si vous en rajoutez sur le paillon, et je lui ai répondu, ben voilà.
Et j'imagine qu'une fois de plus, les édiles qui ont protesté, et même les journalistes qui les ont soutenus,
oui,
n'avaient pas pris la peine auparavant de lire la pièce, puisque la pièce avait été publiée chez Christian Bourgois.
Ah, oui, mais je vais vous dire ce que j'ai répondu au conseil municipal, parce que ça c'est important, je crois. Enfin, ça a été important pour moi. Je lui ai dit, vous avez raison. C'est que si la société était celle que vous rêvez, que nous rêvions tous, je suppose, il n'y aurait ni farce, ni comédie, ni tragédie, il n'y aurait pas de théâtre. Alors c'est vrai, nous sommes là, sur le paillon, la poubelle de l'histoire, vous prenez vos responsabilités.
Et qu'est-ce qu'on vous a dit ?
Oh là là, ah mais non, là, un peu tout le monde s'est mis d'abord à sourire, je crois même qu'il y en a quelques-uns qui ont applaudi, et quelqu'un est venu me dire, qui était du reste un conseiller d'extrême droite, vous venez de gagner 5 ans. C'est un drôle de paradoxe. Hein. Quant à Médecin, lui, il avait attaqué la pièce à partir de la nationalité de son auteur en disant que c'était une pièce bien française pour démarrer un centre dramatique national en France. Je lui ai répondu, moi, ben écoutez, une des plus belles promenades qui soit en France sur le bord de la mer se nomme la promenade des Anglais.
Vous voyez, ce n'était pas à Nice qu'on était, on était presque à Marseille, chez Pagnol. Pas très loin, Martin Milon.
Non, mais on peut résumer un petit peu cette pièce, en fait, Route étroite vers le Grand Nord, d'une façon très simple, parce que finalement, Bond est à la fois d'une clarté extraordinaire et apparemment d'une simplicité extraordinaire, et en même temps extrêmement complexe. On peut le résumer en disant, il y a trois phases dans cette pièce. Un enfant est abandonné, un homme est indifférent aux besoins de cet enfant. C'est Bachot, il ne le ramasse pas. L'enfant, en fait, survit. Pour construire, il devient un tyran et il construit une société qui est indifférente aux besoins des hommes. Et dans une troisième partie de la pièce, il est lui-même renversé par un système qui va beaucoup plus loin, enfin qui est beaucoup plus sophistiqué que le système qu'il a construit lui-même et qui est un espèce de complexe militaire, religieux, industriel et qui enseigne aux hommes en fait que leurs besoins sont mauvais et qui pervertit leurs besoins. En fait, on pourrait simplifier comme ça très rapidement la pièce. Donc c'est lumineux. En fait, c'est un raisonnement lumineux.
Je crois que ce qui a pu vous intéresser dans Shakespeare ou dans la tragédie antique des Grecs, c'est le rapport nécessaire, selon vous, entre la fiction et la réalité?
Yes, I think that it's a very difficult question that, because it's such a basic and fundamental question. You have to say, why is it that human beings have fiction? Children. If you begin with children, you have to lie to children. All children are lied to. You have to tell the children that the trees are happy.
C'est une question extrêmement difficile, parce que c'est une question de base. Pourquoi avons-nous besoin d'avoir de la fiction? Prenons les enfants, par exemple. Les enfants ne peuvent vivre que si on leur ment. On est obligé de mentir aux enfants et de leur dire que les arbres sont heureux, de leur dire toutes sortes de choses qui sont qui leur permettent, en définitive, de devenir des hommes. Prenez, par exemple, une carte mythologique. Si vous prenez le milieu de la carte, tout est bleu, tout est simple, tout est clair, et si vous prenez les bords, alors vous voyez des hommes bizarres avec une tête au milieu de la poitrine. Eh bien, de la même manière, les enfants, il faut leur montrer le ciel bleu, le centre, et c'est ainsi qu'ils deviennent des hommes.
Très, très important, là. Et justement, je voulais vous poser une question. Souvent, dans vos interviews, vous faites référence aux enfants, à l'enfance, et même, en allant plus loin dans un autre domaine, à ce que vous appelez, vous, d'ailleurs, il faudrait peut-être expliquer, l'innocence radicale.
Yeah. Well, again, that's not an easy question, I'm afraid. It is a difficult question. If you listen to a child's questions, the child is actually asking all the questions that philosophy asks. Child is a philosopher. Actually, they're very profound. They're the questions of Wittgenstein.
C'est encore une question difficile. La question de l'innocence des enfants. On pense parfois que les enfants posent des questions simples. Pas du tout. Ils posent des questions qui sont des questions de l'ordre de Platon ou de Wittgenstein, par exemple. Des questions très complexes. Comment est le monde et pourquoi il est fait ainsi. Avec une sorte d'innocence que les adultes ont perdue. Pourquoi l'ont-ils perdu? On a l'impression que c'est parce qu'ils ont fait des compromis et que seule l'absence de compromis crée l'innocence radicale des enfants. Lorsqu'un enfant pose des questions sur l'identité et qu'on ne peut pas lui répondre, s'il n'arrive pas à avoir la réponse sur son identité, alors il devient un enfant autiste. C'est quand il peut se situer dans son identité qu'il parvient à grandir et harmonieusement, mais en même temps, grandir, c'est aussi apprendre à faire des compromis, et le rôle de l'éducation, on a l'impression que c'est un peu aussi souvent d'apprendre à faire des compromis.
Qu'est-ce qui représentait ? Est-ce qu'il représentait vraiment un théâtre qui allait changer beaucoup de choses, selon vous, à l'époque, ou un théâtre qui n'était pas fait pour les Français ?
Éric Kahn.
C'est quelqu'un qui a eu la vocation du théâtre, mais en partant d'une volonté, si j'ose dire, presque politique de changer le monde, disons que c'était du théâtre de gauche par rapport au théâtre de l'establishment, et il a voulu lutter contre ça, il a voulu lutter contre cette chape épouvantablement lourde du victorianisme qui a duré 100 ans, les 50 ans de règne de la reine Victoria, et puis 50 ans encore, pour arriver à s'en défaire totalement. Et là, les jeunes gens en colère, comme on a dit, enfin les Osborne, oui, et autres, à la partir de 1950, ont commencé justement à secouer cette chape de plomb qui a fini par s'effriter en une dizaine d'années, avec des tas d'auteurs comme Wesker, bon, Osborne, Pinter, qui est venu un petit peu plus tard, puisque c'était vers la fin des années 50. Et puis Bond qui a tout d'un coup sauté dans la brèche et a sorti des pièces, enfin il en avait écrit je crois beaucoup avant de pouvoir être joué, tout en travaillant à l'usine ou au bureau, enfin c'était un prolétaire comme on disait, avec une éducation assez médiocre, et qui était un autodidacte et qui a eu cette espèce de passion à la fois du théâtre et d'autre part d'une forme de langage qui était très intéressante, par exemple dans Saved, qui est un langage très parlé, plus qu'écrit, mais en même temps très stylisé, très violent, avec une espèce de poésie banlieusarde extraordinaire. Et puis Early Morning, où tout d'un coup, c'est à la fois le langage de la cour et en même temps le langage du peuple, Et puis, une sorte de passerelle entre les deux avec ce Gladstone, qui était ce qui serait aujourd'hui un député travailliste, et qui était d'un langage absolument populiste, frisant et dépassant même la vulgarité. Et puis, bon, Route étroite, qui, là, c'est beaucoup plus lointain, distancié, c'est presque brechtien. Et là, il n'a pas eu de souci avec cette pièce, justement parce qu'elle était lointaine, qu'elle n'attaquait pas directement des valeurs morales précisément britanniques, qu'on pouvait se dire que c'était très abstrait, que ça se passait dans un Japon du 18e ou du 19e siècle, assez conventionnel et assez suffisamment lointain pour qu'on s'en émeuve pas trop dans les cercles de la censure anglaise. Je voudrais revenir à une chose, c'est justement ce titre dont vous parliez tout à l'heure, et parce que j'ai beaucoup travaillé pour faire ce titre français.
Demain la veille,
oui, et donc seul Guy Dumur avait, en son temps, avait compris que c'était pas une simple blague, et que c'est vrai que le mot « morning » en anglais se prononce de la même façon que l'autre mot « morning » qui s'écrit « M-O-U ». R-N-I-N-G, et qui signifie le deuil, la veillée funèbre. Enfin.
Et vous jouez avec la veille et la veillée.
Et demain, la veille, donc la veille funèbre. Ça me semblait drôle qu'il y ait une troisième chose qui est dans cette expression française, c'est pas demain la veille.
Qui un peu plus trivial.
Oui, mais enfin, il y a des côtés très triviaux
absolument,
dans cette pièce.
Absolument.
Et j'étais pas mécontent de ce titre.
Ces costumes sont exquis. Florence boite déjà. Il y a 8 jours à peine qu'elle est avec nous. Vous dansez?
Danser?
Oui. Vous danserez sur un seul pied et moi sur 4 jambes. On appellera ça la boiteuse.
Je ne la connais pas, celle-là.
C'est une nouvelle danse en l'honneur de vos fiançailles.
Oh.
Elle a reçu une éducation stricte et ne danse que sur les cantiques.
Pourquoi est-il si grossier avec moi?
Moi, grossier?
J'ai perdu ma chaussure. Elle a dû tomber par là.
Une seconde, bougez plus.
Veuillez me donner cette arme. Tirez, imbécile, tu es là.
Il faudrait savoir ce que vous voulez. On essaie de contacter le QG, mon général.
Quel QG?
La base. Reine morte, appelle la base. Reine morte, appelle la base. Vous me recevez à vous?
Tout cela est superbement organisé.
Tu reçois quelque chose?
Reine morte, appelle la base. Reine morte, appelle la base.
Écartez-vous dans les petits.
Père, vous m'aviez promis de ne pas la tuer.
Tu es au courant de rien. Je lui ai demandé son arme, tu m'as entendu? Cet homme est ivre de vengeance.
Mon temps, ceci est votre âge.
George Wilson.
Ces auteurs qui viennent d'outre-Manche et qui nous ont... ce groupe de jeunes auteurs qui nous ont bouleversés, nous, les hommes de théâtre. Mmh. On ne pouvait pas ne pas en tenir compte. Ça a été une avalanche de talents. Je suis d'origine nordique. Bon, je suis toujours partagé entre cet héritage du Grand Nord, cet héritage des brouillards, cet héritage de vouloir en sortir... Ce besoin de retourner dans l'enfance, oui, je me sens souvent partagé par ces deux forces. Et puis le côté réaliste et logique des Français. Vous savez, vous n'avez qu'à malgré tout aller. Plus on va dans le Nord, plus l'enfant est célébré, si vous voulez. Les fêtes de Noël, c'est l'enfant roi, c'est le retour au paradis perdu. C'est ce paradis d'innocence qu'il faut essayer de retrouver dans l'âge adulte. D'ailleurs, actuellement, le mal de l'Occident, c'est que on ne sait plus très bien où projeter les forces vitales. On ne sait plus très bien où les projeter, alors on se réfugie.
C'est peut-être pour Martin, ça que le théâtre de bande est tellement important. Vous dites qu'on ne sait pas que les valeurs... Bon, on est un peu perdu dans tout... On n'a plus de valeurs. Bande est un des rares dramaturges actuellement qui a une force de conviction absolument extraordinaire.
Il y a un sens du bonheur, en tout cas.
Oui, et qui pose les problèmes à la base. Il ne parle absolument pas de choses futiles. Il parle des problèmes les plus importants.
If I can just finish that. The imagination has to come to its own understanding of things. I said it was a place of lies, but it has its own structural internal needs, which cannot be lied to. Somebody like Hitler said,
je voudrais rester encore un instant sur le chapitre de l'imagination. C'est un lieu paradoxal. C'est un lieu ou un lieu de mensonge, comme je l'ai dit, un lieu de fiction, mais en même temps, l'imagination a ses besoins internes qui sont des besoins de vérité. Hitler a dit que plus gros le mensonge et plus les gens le croiraient, ce n'est pas vrai. Je pourrais produire un État tyrannique et je pourrais produire une société qui marcherait parfaitement, qui serait en ordre parfait, mais l'imagination se rebellerait et ne pourrait pas se donner libre cours. En d'autres termes, le politique doit être un lieu qui doit permettre à l'imagination de s'épanouir. L'imagination est un lieu de tension dramatique, c'est un lieu de théâtre et de drame. Et elle a ses besoins dramatiques internes pour pouvoir s'épanouir et comprendre la réalité et le politique.
Je voulais vous poser une question pour en finir avec l'objectif et le subjectif, avec l'enfance. Je me demande quand, selon vous, cette perte d'innocence a pu commencer. Vous avez dit dans une interview il y a très longtemps, je crois que c'était au moment de Saved, dans Sunday Times, vous avez dit « Je suis terrifié à la pensée que Dieu était amour et qu'il avait tué son fils pour nous. Et nous avait lavé dans son sang. Nous avons besoin d'amour pour surmonter la vie par la mort. » Et cette phrase que j'avais lue à l'époque m'avait beaucoup travaillé. Alors je me demande si vous, Edouard Bond, au-delà du théâtre, bien sûr, au-delà de la société, vous n'êtes pas à la quête, à la recherche d'une question fondamentale qui est plus intérieure, qui est plus personnelle.
Supposing you were to say to the child, well, Father Christmas won't come and give you presents, he'll come and kill you because he loves you.
Si vous dites à un enfant, le Père Noël vient te donner des cadeaux, il va te tuer, il ne comprend pas, il dit non, il vient me donner des cadeaux. Mais un adulte peut tourner la question des cadeaux en une question de mort, et que des cultures et des religions, que des religions aient pu naître sur l'idée que Dieu est venu pour donner son sang et mourir, et qu'on ait pu créer des religions aussi effrayantes. C'est absolument consternant et révoltant, et je suis révulsée à cette pensée.
Claude Régis.
Non, je crois qu'on a parlé de cette nouvelle vague anglaise qui, effectivement, a pris une relève tout à fait nécessaire par rapport à cette grande période du théâtre de l'absurde et par rapport à une très grande période de théâtre dit social ou engagé, pour reprendre le mot de Sartre, qui a quand même débouché sur une vingtaine d'années où tout a été complètement brechtisé. Alors, face à cet envahissement un petit peu univoque, il était très important de trouver d'autres écrivains. Et ces écrivains, en effet, à ce moment-là, on constate que les choses se déplacent un petit peu comme ça, géographiquement. Et dans cette période-là, la nouvelle voie, qui avait beaucoup été en France au moment du théâtre de l'absurde, par exemple, est beaucoup passée en Angleterre. C'est ainsi qu'à partir d'Osborne, qui n'est pas le plus important d'eux, il y a eu Pinter, qui évidemment est extrêmement important, Saunders, David Storey, et peut-être
Wesker,
Ronald Wesker, dont Ariane Mouchkine avait remarquablement monté sa plus belle pièce, qui est La Cuisine. Il savait de quoi il parlait, puisqu'il était cuisinier. Et c'est ça
à
aussi,
Paris,
qui, oui, au Raleigh, près de l'Opéra. Et c'est ça aussi qu'on peut peut-être signaler, c'est que ces auteurs étaient souvent des enfants d'ouvriers. Ce n'étaient pas forcément des universitaires.
Comme Bond lui-même.
Comme Bond lui-même, qui était, je crois, pas me tromper, fils de mineur. C'était assez nouveau dans la littérature de voir autre chose qu'une classe privilégiée ayant accès à l'université et débouchant sur la littérature. C'est que ça explique peut-être la violence de ce théâtre et le choc d'une société qui reste quand même majoritairement commandée par la morale bourgeoise. Alors je crois que Sauvé a été une équivoque totale, c'est-à-dire qu'encore maintenant, on ne parle que de l'assassinat du bébé. Alors bien sûr, c'est un thème récurrent, mais ça a complètement aveuglé les gens, et personne n'a vu la pièce. On a vu qu'on assassinait un bébé. Bon. Alors ça, c'est extrêmement grave, parce que justement, cette pièce est d'une complexité incroyable, première chose. Deuxièmement, elle est d'un ton extrêmement difficile à capter, parce qu'elle semble totalement naturaliste et presque argotique. Elle semble avoir été enregistrée dans la rue ou dans les demeures des gens les plus déshérités. Et en fait, il y a une transposition, il y a une poétique, il y a une rythmique, il y a des sonorités, il y a tout un langage qui crée, avec une économie de syllabes et de sons extraordinaires, qui crée un lyrisme qui égale à celui de Shakespeare. Ça, c'était déjà sensible dans la, j'allais dire la Reine Victoria, je veux dire Early Morning. C'est devenu extrêmement sensible quand il a écrit lui-même son propre lyre. Où le thème majeur de la pièce était d'ailleurs les énormes efforts pour construire un mur ou pour le démolir. Donc on voit que sur bien des terrains, Bond était parfaitement en avance et que ses auteurs ont flairé, et nous avons mis beaucoup de temps à les suivre, que le politique avait complètement changé, c'est-à-dire que l'appréhension du monde politique ne reposait plus sur la lutte des classes, qu'on ne pouvait plus continuer à faire du théâtre social avec des schémas qui ne correspondaient plus à la réalité de la société. Et ils ont fait complètement éclater tout ça. Mais ce qui était extraordinaire dans la pièce de Bond, donc, c'est que pourquoi l'assassinat d'un bébé ? La mort était donnée. Et évidemment, on l'a sanctionné par la morale. Ça a été une réaction morale. C'est un scandale. On ne montre pas l'assassinat d'un bébé. Alors il n'y a qu'à ouvrir le journal, on en jette dans les vides ordures, on en tue, on attend quelquefois qu'ils soient adolescents pour les envoyer à la guerre. Je veux dire, la société ne se prive pas d'assassiner des enfants sur toutes les formes, et psychiquement, et ses propres enfants. Il ne faut pas... Alors pourquoi ce bébé a été assassiné ? Parce que la mère a été placée dans une situation absolument intolérable. Intolérable de frustration sexuelle, intolérable de privation culturelle, privation de tout tissu social vivable, simplement respirable. C'est d'ailleurs dit dans la pièce. Et elle devient folle parce qu'il y a une espèce de dragueur, la queue en avant, qui l'a marquée pour la vie. Et qu'elle ne peut plus s'en passer. Et comme il est allé porter sa queue ailleurs, elle devient folle. Que le petit garçon qu'elle a essayé de sauter, car les choses se faisaient plutôt à l'envers, est resté là comme un parasite. Et à partir de là, la pièce se développe d'une façon tout à fait extraordinaire, parce que c'est une étude de toute forme de déviation de sexualité. Et ce parasite, la mère commence à le désirer en le gardant à la maison, en lui faisant à manger, en faisant son fils. Or, qu'est-ce qu'on apprend de fils de cette famille ? Il a été tué dans un bombardement. Oui, c'est dit en deux lignes. Il y a deux répliques. Il faut écouter. Bon. Alors l'enfant tué sur le jardin public, il y a d'abord eu l'enfant de la famille qui a été tué. Donc violence rendue pour violence donnée. Et quand on attaque les violences des banlieues, il faut d'abord savoir qu'avant de la recevoir, cette violence, on l'a donnée. Et on la donne encore. Et on va la recevoir donc beaucoup plus fort, puisqu'on la donne de plus en plus fort. Et cette pièce, dis-je, en 1972, elle disait ça. Et ce garçon qui était là comme un parasite, qui ne faisait pas l'amour, ni avec la fille, ni avec la mère, il y a une scène absolument extraordinaire où la mère va, soi-disant, au cinéma, sans doute voir un film porno suédois, est-il dit. Pas de culture, la télé est cassée, on voit à peine la connerie qu'elle dégage. Tant mieux. Dans ce désert culturel, dans ce désert sexuel, cette femme s'habille pour aller au cinéma, la mère, et elle enfile des bas et elle s'arrange pour craquer son bas, justement très haut, au plus haut de la cuisse. Et il y a là tout l'érotisme des bas émaillés, des jartelles. Et ce garçon, avec une aiguille symbolique, il ne faut pas chercher loin, elle lui demande de raccommoder, de mouiller avec sa salive pour mieux enfiler l'aiguille, et puis, etc. Non. Il y a une scène c'est l'inceste à l'état pur, mais il n'est pas accompli. Mais il est montré dans des images d'une violence incroyable, peut-être beaucoup plus violente, puisqu'il s'agit là de l'inceste, que l'assassinat lui-même du bébé. Alors je ne peux pas expliquer tout ça en détail, parce qu'évidemment, il faudrait faire une conférence de 3 heures. Mais j'espère avoir au moins montré la complexité des liens qui lient tous ces personnages et le côté absolument circulaire de la pièce, qui tourne en rond, parce qu'à la fin, le garçon qui est arrivé, ce garçon parasite... ça se termine par une scène muette. Plus personne ne parle. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus de langage. Il n'y a plus de paroles possibles. Et ce garçon qui a
achevé de foutre la merde, essaye d'aider en réparant une chaise. Et plus personne ne dit rien. Et la mort est installée dans ce béton des HLM, sans argent, sans culture et sans sexe. Et c'est une espèce de chape de silence qui écrase la maison. Alors, au milieu de ça, le meurtre du bébé, c'est très peu de choses. Et c'est en tout cas une chose extrêmement logique et tout à fait conduite par tout l'environnement de la pièce.
Hello.
Qu'est-ce que tu fabriques ?
Je me promène.
Un peu tard, non ?
Qu'est-ce que t'as pris ?
Rien.
Laisse-moi voir.
Y'a rien pour toi.
La ramène pas ?
T'as failli nous manquer.
Pas la peine de faire cette tête-là ?
On allait partir.
Pourquoi tu trimbales ça ?
J'avais envie de me promener.
Un peu tard.
Pourquoi ?
Ça devrait être au lit.
L'air frais va pas le tuer.
T'aurais dû faire ça plus tôt.
J'ai pas trouvé le temps, pourquoi tu l'as pas fait toi-même ?
C'est ton boulot.
Quand est-ce que je te vois ?
Je ferai un tour.
Quand ?
Je sais pas.
Quand à peu près ?
Plus tard. Je passerai un soir la semaine prochaine.
Non.
Lundi soir, qu'est-ce que t'en dis ?
Tu vas changer d'avis.
Tout droit en sortant du boulot.
T'as déjà dit ça avant.
Je peux pas faire mieux.
Je peux pas rentrer maintenant.
Allez, ça ira très bien.
Si je dois rester toute seule dans cette chambre une nuit de plus, je deviens dingue.
T'as le môme.
Rien que pour cette nuit, je pourrais pas supporter d'être toute seule une fois de plus. Fallait que je sorte, je sais pas ce que je fais. Ce gosse devrait être au lit, viens le ramener avec moi. Il a eu une pneumonie une fois.
Rentre-le, toi.
Juste pour cette fois, je te demanderai plus, je demanderai à maman de rester avec moi.
Insiste pas.
Tu l'as pas vu depuis longtemps, hein ? Il a pris du poids.
Ah.
Puis pleure pas comme avant, enfin pas tout le temps.
Il en est plus là.
Ouais, très mignon.
Il voit rien.
Il pionce.
Qu'est-ce que tu lui donnes ?
Aspirine.
C'est bon, ça ?
Il se réveillera pas avant demain, il te dérangera pas. À quelle heure je te vois ?
Je passerai. Je peux rien dire dessus.
Ça m'est égal du moment que je sais que tu viens.
D'accord.
Dommage de gâcher les côtelettes. Je crois que je vais les faire à tout hasard.
Oh ouais, c'est ça, c'est selon.
J'attendrai.
Ça fera tard, tu sais.
Ça fait rien.
Pam.
Je m'offrirai des chocolats.
Il y a des tas de mecs qui traînent. Pourquoi tu trouves pas quelqu'un d'autre ? Non. Tu peux m'avoir, ma poulette. Mais il faudrait que t'apprennes le respect.
Comment je peux sortir avec ce machin à la traîne ? Qui c'est qui va me regarder ?
Ta vieille t'en débarrassera.
Fais-lui un peu d'oseille.
T'essayes pas.
Je peux pas.
Faudra bien.
Je peux pas, je le ferai pas.
Je vais plus te voir.
Non !
Il faut qu'on en finisse avec cette histoire.
T'as promis !
C'est du temps perdu !
Ils sont témoins !
Non !
Viens, mon vieux.
C'est fini.
Pas trop tôt, on se tire.
Rien que pour cette nuit, ça m'est égal si t'es allé avec d'autres filles. Viens chez moi, pas rien que pour une fois. Je t'embêterai pas, je te laisserai dormir, je t'en prie.
Merde !
Oh, tu t'en fous bien, toi, hein ? Trois semaines allongées sur le dos, qui s'est calmé le petit doigt, j'aurais pu crever, pas !
Bon débarras.
C'est toi le père de ce mot, moi ! Tu peux pas sortir de là !
Prouve-le !
Je le sais !
Tu le sais ! Toute la bicoque t'est passée dessus.
C'est le menteur !
Ah ouais ? Tu l'as pas eu ? C'est toi le prochain. Et toi ? Et lui, hein ? Ta queue, c'est sûrement la seule qu'elle se soit pas enfilée à 100 km à la ronde.
Je déteste !
Ah, on y vient !
Pas !
Voilà qui est mieux, maintenant, taille !
Tu vas ! Tu peux emmener ton sale môme chez ta pute, tu lui rates un galop ! Hey, hey.
C'est là qu'on voit que cet auteur, qui fait penser à Shakespeare, parce que même quand on jette des tartines, parce que là, les deux vieux se disputent la propriété du thé, elle dit « c'est ma théière », elle dit « c'est un cadeau de ma mère hein. ». Donc c'est mon thé, c'est ma théière. Et il y a une espèce de possession, il y a une espèce de guerre, il y a une espèce de racisme, comme si les deux époux ne pouvaient pas se tolérer, à tel point était poussée leur hétérogénéité. Et qu'à ce moment-là, les tartines sont jetées dans le living room, avec la télévision cassée, et qu'on a l'impression d'un champ de bataille de Shakespeare. C'est aussi terrible, la destruction est aussi vaste que si on avait amené des escadrons de chevaux et d'hommes en armure, avec des hallebardes, et même des arquebuses. Et on retrouve absolument cette immensité du lyrisme shakespearien avec des répliques de 5-6 syllabes, avec un langage qui semble pris dans la rue. Et en même temps, la difficulté, justement, est de donner cette ambiguïté d'un réalisme qui est complètement surréaliste.
J'ai l'impression que, en tant qu'homme, à vous entendre, mais en tant qu'auteur dramatique, puisqu'on a déjà lu ou vu vos dernières pièces en France, vous êtes fidèle à une idée que vous vous êtes faite il y a très longtemps de votre rôle de citoyen dans une société, dans la société anglaise. C'est-à-dire que il y a très longtemps, par exemple, quand on a découvert le nouveau théâtre anglais dans les années 55, 56, 57, on nous a employé une expression très médiatique, c'était les jeunes gens en colère, angry women. Et le leader de ces gens-là était un certain John Osborne. Vous-même, vous n'étiez pas dans cette mouvance, mais j'ai l'impression que le vrai jeune homme en colère, c'est l'Edward Bond d'aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez dit aussi que tout art doit être rébellion contre le gouvernement. Et j'ai l'impression que vous continuez à vous rebeller à travers votre théâtre, à travers cette société que vous trouvez primitive, dangereuse et corrompue, et qu'il faut la changer. Je vous cite.
Yes, I mean, so that just doesn't appear to be a slogan, because it would be a very easy slogan.
Il ne faudrait pas que cela apparaisse comme un slogan, parce que ce serait un slogan bien facile. Ce que je pense profondément, c'est que l'homme doit vivre dans une culture. L'homme ne peut pas vivre sans culture. Ni par exemple une civilisation qui compterait sur la pluie pour survivre, elle aurait une danse de pluie. Et à la limite, même si la pluie ne vient pas, la danse de pluie, elle a lieu. Et c'est très important pour l'être humain de vivre dans une civilisation basée sur cette culture, chose que nous avons un peu perdue. En d'autres termes, ces cultures sont des cultures où on a incorporé le rôle de l'imagination dans la vie sociale. Alors qu'aujourd'hui, si la pluie ne vient pas, on sait bien qu'en réalité la pluie vient quand elle veut. Aujourd'hui, si la pluie ne vient pas, on invente une nouvelle machine.
So what we have now is a system. We don't have a culture. And I believe we are the first human society ever that has no culture.
Si bien que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a un système, on n'a plus de culture. Et je pense que nous sommes la première civilisation aujourd'hui qui vit sans culture.
Les gens n'ont vu que la morale, voilà. Le Figaro scandalisé, et voilà. On montre sur une scène l'assassinat d'un bébé, quelle horreur, n'y allait pas, etc.
Mais comme toi, tu as metté en scène honnête.
Bond est passé inaperçu, cet auteur génial qu'on a mis 20 ans à reconnaître, si on tentait qu'il soit reconnu. Pas parce que des metteurs en scène courageux le montrent, qu'il est vraiment encore peut-être reconnu. On verra ça.
Moi, j'ai une critique de l'humanité par rapport à Early Morning, Claude, disant que on n'a pas le droit de traiter la reine d'Angleterre de cette façon.
C'est pour ça que j'ai reparlé de la reine Victoria, parce que la pièce a failli être censurée. Oui. De même, il faut savoir qu'à Londres, Sauvé a été censuré.
Moi, je trouve que c'est un héritier tout à fait formidable. C'est banal de dire ça, mais des grands élisabétains. Et l'art, dit-il, est tout ce qui dévisage attentivement la figure humaine. Et ça me paraît complètement tiré en droite ligne de l'éthique shakespearienne, si je puis dire. Hein ? On trouve à peu près les mêmes phrases dans Hamlet. Oui. Oui. Alors pourquoi ne l'a-t-on pas, pourquoi ne l'a-t-on pas attendu? D'abord parce que bon, en France, il y a une réserve tout à fait de l'opinion et de l'opinion professionnelle, je veux dire, envers les auteurs nouveaux, d'une façon générale nouveaux, vivants. On redoute les auteurs vivants. Et quand ils sont étrangers, c'est encore pire. Encore que ces dernières années, depuis 1968, on a vu au contraire fleurir l'inverse, la bascule inverse. Tout ce qui avait une couleur allemande, tout ce qui avait une couleur anglaise, tout ce qui avait une couleur Europe centrale, devenait présent. Ce qu'on a une opinion, une vie théâtrale un peu déglinguée, si vous voulez, qui manque, elle, d'attention à la figure humaine.
Donc,
voilà.
Gabriel Monet, pour vous, le recul du public français, le refus d'accepter la dramaturgie d'Edouard Bond pendant de longues années, c'est à la fois dû à des problèmes politiques, car c'est un auteur qui ne recule pas devant le propos politique, en dépassant le théâtre militant au premier degré, bien entendu.
Tout à fait, mais surtout, il a fait autre chose.
Voilà. Et en même temps, c'est peut-être la manière dont il traite son sujet qui fait qu'on n'est pas toujours en pays familier.
Ah ben, c'est-à-dire qu'il casse d'abord la notion du récit habituel, voilà. Bond, casse la fable. Il introduit au contraire une espèce de regard en profondeur, c'est une espèce d'analyse critique très profonde. Vous avez raison de souligner que ça n'a rien à voir avec un théâtre militant, c'est un théâtre poétique au sens où la poésie deviendrait là le ressort à nouveau de l'existence, le phare central, le noyau, le point d'où toute l'énergie part et dans toutes les directions.
And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, yeah, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. For there will be an answer. Let it be, yeah, let it be, let it be, let it be.
Je voudrais savoir si vous êtes toujours, je ne sais pas si on doit dire marxiste, mais en tous les cas socialiste.
That's an easy question.
C'est ça la question simple.
Si, you want me to define socialism, boy. Well, I certainly am. It depends what you call by a Marxist. I mean, I wrote my play Lear, which was a criticism of Stalinism and of what was happening in Eastern Europe and so on. Which
je vais répondre à la question en soulignant d'abord que j'ai écrit Lear pour protester contre le stalinisme. Mais je suis obligé de relier votre question à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les différences entre la culture et le système. Je le rappelle, dans le système, l'imagination est entièrement subordonnée aux lois du marché. Et je peux dire que je suis socialiste dans la mesure où c'est la seule manière pour moi de vivre un monde où l'imagination ne serait pas subordonnée au système et où elle ne serait pas réduite aux lois du marché. Donc je suis socialiste car c'est la seule possibilité pour moi, enfin pour l'homme, à mon avis, d'être libre. Maintenant, on pourrait peut-être dire, eh bien, acceptons l'évolution actuelle et devenons tous des robots. On pourrait faire ça. Mais pourquoi est-ce que ça n'est pas une bonne solution?
Well, I would try to answer my question. Why is that not why wouldn't that be a good state of affairs for us? And the reason, the terrifying thing about human beings, the terrifying and dangerous thing about human beings is not that they're born sinful and guilty, it is that they are born innocent. That's the really terrifying thing. They are born innocent because they then say, I want justice. I want a just understanding of the world. Hitler doesn't
et pourquoi est-ce
say,
que nous ne pouvons pas être des robots says, c'est parce que l'enfant est né dans l'innocence. Et comme il est né dans l'innocence, il réclame la justice. Hitler ne disait pas « je suis un monstre », Hitler disait « je suis un saint ». Et Himmler a dit une des phrases les plus stupéfiantes du siècle, il a dit « je gaze les juifs par amour ». Donc l'être humain a en lui cette soif de justice, et même si nous le voulions, nous ne pourrions pas être des robots, parce que l'esprit humain ne se satisferait pas et continuerait à poser des questions, à demander pourquoi n'y a-t-il pas plus de justice.
Pour Bond, de la lutte des classes est tout à fait un concept absolument valable, il y tient à mordicus. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il le dépasse complètement dans son théâtre. Ça ne s'arrête pas à la lutte des classes. Au contraire, si son théâtre est réduit à l'apologie du socialisme, là, on détruit en fait ces pièces. Ça dépasse de beaucoup. Oui. On pourrait plutôt dire que, en fait, c'est une lutte entre les forces de vie et les forces de mort qui sont à l'œuvre dans la société.
Ramassez cette arme.
Mais il a enlevé le cran de sûreté!
Où est-il ce cran de sûreté? C'est pas ça?
Ça se rapproche!
Vaut mieux aller prévenir les copains!
Georges! Mon chéri! C'est vous, ça? Arthur est blessé!
Les salauds! Ils ont foutu le temps!
Georges, Maria!
Il a reçu une balle dans sa tête, je sens sa douleur!
Tout allait trop bien, je le savais. Sauvons-nous! Je ne peux pas abandonner Georges! Ils vont revenir, ils vont le tuer, vite!
Puisqu'il faut mourir, autant profiter, jusqu'à la dernière goutte!
Mon devoir est de servir le chef de l'État. Mais qui est le chef de l'État? L'incertitude est mère de l'inefficacité. Je vais rester au lit quelques semaines, après quoi tout sera clair.
L'image des frères siamois dans Early Morning, avec Arthur qui se coltine pendant la moitié de la pièce, ce squelette de son frère attaché à son épaule, c'est tout de même une image quand même frappante et qui dit très très clairement que les morts, on porte les morts entre les vivants. C'est une des obsessions de Bond. On porte le poids des morts sur le dos et ce qu'il faut faire, c'est tuer les morts. Oui. Il faut tuer les morts, s'en débarrasser une fois pour toutes.
Madame disait que des forces sont en opposition dans la société. Elles ne sont pas en opposition dans la société, elles sont en opposition en nous. On ne peut pas... Et alors, vous dites, il faut tuer le mort. Comment on peut tuer les morts si en nous, on ne peut pas faire ce travail intérieur? La société, c'est nous qui la composons. Le travail, il est à faire d'abord là, dans l'individu. Et si on ne peut pas, on est impuissant à régir tout cela... ça, c'est pas la peine de parler d'amélioration de la société ou de changement de la société si l'individu ne peut pas se modifier. Nous ne pouvons pas nous modifier parce que nous n'avons pas encore les outils intellectuels et du cœur pour cela. Alors, c'est ça, nous parlons tous, n'est-ce pas? Nous parlons tous, mais nous ne pouvons pas trouver... de nouvelles ressources pour faire mieux que ce que nous avons toujours fait jusqu'à présent. On ne peut que refaire pareil parce que nous n'avons pas encore ces choses mutantes en chacun de nous.
Pour vous répondre, madame, c'est absolument vrai que le combat entre les forces de vie et de mort se trouve à l'intérieur de l'individu aussi. Mais, et bien entendu, c'est le travail de le faire. L'individu doit faire un travail sur soi. Mais ce Bond insiste absolument. Et en ce sens, il s'oppose, par exemple... au théâtre de Beckett, le théâtre de l'absurde, qui rejette avec une violence incroyable. Enfin, pour lui, il est absolument essentiel que l'individu se situe par rapport au social et par rapport à la société. Donc, il combatte, enfin, c'est les forces de mort qui sont dans le social. Enfin.
Alors, y a-t-il une autre question dans la salle? Ah, Alors, ça, c'est très compliqué, parce que c'est Christine Friedel qui a écrit beaucoup de... Hein. Je ne sais pas ce que tu as écrit sur les pièces dont nous parlons quand tu écrivais dans tous les journaux, y compris Révolution. Alors, et maintenant que tu es secrétaire général, il faut dire la vérité. Oui. Tu es secrétaire général d'un théâtre, c'est celui que dirige René Voyon à Besançon.
Ma question, c'est une remarque pour aller précisément dans le sujet où on est. C'est-à-dire que René a monté L'été il y a 2 ans. Il l'a appelé Summer, pas du tout par snobisme ou quoi, mais parce qu'il y avait un autre été, celui de Van Garten, qui se jouait la même saison à la Colline. Donc il a été en correspondance évidemment avec Bond à cette époque. Il a rencontré, il a travaillé la traduction aussi. Et ce qui est apparu en 90, de très choquant. Quand on travaille avec Bond, c'est que Bond osait seul, presque, en 90, employer le mot politique, employer le mot humanisme, enfin des choses comme ça, qui étaient effectivement tombées dans le trou apparent et sans fond du vide des idéologies. Et le fait que Bond revienne maintenant avec toi, tous les metteurs en scène présents, Françon, c'est quand même très intéressant pour ça, parce que on ose de nouveau prononcer le mot politique, le mot social, le mot lutte des classes, sans avoir à se cacher sous la table et à rougir et à se dire on est dans le non-sens et tout. Je voudrais juste lire un extrait d'une lettre qu'il a écrite donc dans ce travail à René, où l'on voit très simplement que les problèmes de traduction, de rythme, de justesse sont pas du tout quelque chose de différent du problème social et du problème humain. Qu'il traite. On me dit souvent que mon anglais est très bon, et tout aussi souvent qu'il est très mauvais, écrit Edward Bond. J'écris spécialement pour les acteurs. Je leur confie une prose difficile, même si elle peut présenter également des zones psychiques transparentes et lyriques. Toutes ces zones du texte sont le métatexte qui devrait être le véritable sujet de l'interprétation. Le personnage est simplement la base de l'interprétation, non son sens. Le sens réside dans les intentions de la production, c'est-à-dire dans ce quoi la pièce est utile. Alors, actuellement, par exemple, le théâtre anglais n'a pas les moyens d'être utile, et c'est pourquoi tout ce qu'il fait n'a littéralement pas de sens. Mes phrases sont formées d'une certaine façon. Elles sont à des temps grammaticaux particuliers qui montrent des états d'esprit. Souvent, à la traduction, ces choses sont modifiées parce que le traducteur ne les comprend pas. Et il essaye d'introduire dans le texte des choses que j'ai retranchées. Autrement dit, il ou elle cherche à faire le travail de l'acteur et bien entendu du public. J'ai exposé quelques-uns des problèmes. Je vous laisse le soin de trouver les solutions.
Merci.
Bien cordialement, Edward Bond. Ouais. Donc là, je trouve très intéressant qu'il relie dans une même lettre et de façon très rapide ce problème de l'utilité sociale du théâtre et de l'exactitude de la traduction et du fonctionnement réel du théâtre, c'est-à-dire justement pas explicatif.
It's very interesting that the use of this word culture in America, for instance, now, people talk about the business culture, the culture of Wall Street, or the culture of ICI, as opposed to the culture of some other, to Shell International. They can each have their own cultures. In other words, you don't have a culture of
C'est intéressant de voir l'évolution du mot culture aujourd'hui. On ne l'emploie plus en relation avec une civilisation, mais simplement avec une entreprise. On parle de la culture de Shell International, de la culture de Wall Street. Cela veut dire que l'imagination est totalement subordonnée maintenant à des systèmes technologiques, économiques qui deviennent tout puissants. C'est cela la déshumanisation. Pourtant, j'aimerais faire comprendre clairement que je ne suis pas contre la technologie, ni contre les hôpitaux, ni contre les machines. Je suis contre une société dans laquelle ces choses sont possédées d'une manière inhumaine. Je pense qu'il y a une centaine d'années, l'on pouvait parler d'une classe dirigeante qui possédait la classe ouvrière. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'est que nous sommes possédés par nos propres machines.
Édouard Bond dit que lui-même, son théâtre, se rattache à la fois au classicisme et à l'actuel, ce qui augmente les problèmes de traduction.
Éric Kahn.
Oui, absolument. Par exemple, une pièce comme Route étroite est une pièce qui n'est pas écrite dans la langue bondienne des autres. C'est pas écrit comme Saved ou, si vous voulez, ces trois pièces sont écrites de façon très différente. Saved, c'est presque un dialogue de cinéma, c'est-à-dire, enfin, très très parlé, où le côté littéraire est vraiment en arrière-plan. Il est très fort, le côté littéraire, mais c'est une espèce de langage faubourien, ordurier, un petit peu, enfin, même considérablement stylisé, mais qui reste quand même une langue absolument près de la terre, de la sueur, du ruisseau et de la saloperie banlieusarde qu'il voulait décrire. Ce n'est pas la même langue que dans Route étroite, qui est une espèce de parabole avec des poèmes et des haïkus, etc., et qui donne une... c'est une langue qui se veut beaucoup plus linéaire, beaucoup plus poétique et distanciée par rapport à la langue anglaise pour une pièce qui se passerait en Angleterre. Enfin, il y a un côté exotique, si vous voulez.
Cordelia, ne construisez pas le mur.
Il le faut.
Alors rien n'est changé. Une révolution devrait au moins changer quelque chose.
Tout le reste est changé.
Démolissez-le.
Je ne veux pas. Nos ennemis viendraient nous attaquer.
Le mur vous détruira. Il a déjà commencé. Écoutez, Cordelia, oh, comment faire pour t'ouvrir les yeux?
Dis-lui, dis-le-lui.
Nous sommes venus pour vous parler, pas pour vous écouter. Ma femme a quelque chose à vous dire.
Elle est venue, comme les autres. Elle écoutera comme les autres. Cordelia, vous avez deux ennemis, les mensonges et la vérité. Vous sacrifiez la vérité pour détruire les mensonges. Vous sacrifiez la vie pour détruire la mort. Vous serrez une pierre dans votre main jusqu'à ce que votre main saigne et vous appelez cela un miracle. Cordelia, je suis un vieillard, je suis faible et maladroit, comme un enfant trop lourd sur ses jambes. Pourtant, j'ai appris une chose, et tu devras l'apprendre à ton tour, sinon tu mourras. Cordelia, nos vies sont informes et fragiles. Une seule chose peut nous sauver, la compassion.
Alors, je crois qu'on peut peut-être passer la parole à Michel Dubois, parce que tout d'un coup, Michel, tu te trouves autour d'une dramaturgie, en ce sens que, lorsque, par exemple, Patrice Chéreau monte en 75 Lire, tu l'as accueilli, et là, tu l'as accueilli, je crois qu'on peut dire, c'était prévu, mais l'accueil s'est passé dans des conditions plutôt dramatiques. Il faut savoir que c'était un spectacle qui avait beaucoup étonné les gens à Villeurbanne. Il y avait là aussi de très bons acteurs, comme François Simon, Tatiana Mouquine ou Gérard de Sartre. Et il y avait aussi une très grande actrice qui s'appelle Luz Garcia-Ville qui jouait ce spectacle d'une manière absolument émouvante, bouleversante. Et je me souviens, on était à la salle du TNP et un jeu de scène était prévu où elle cognait la tête par terre. Et elle cognait pour de bon la tête résonnait dans la salle. Et quelques semaines après, elle nous a brutalement quittés. Elle n'a plus eu envie de faire partie de ce monde. Et Chéreau a téléphoné dans la nuit à Michel Marquet pour qu'elle la remplace au pied levé. Et ils sont arrivés chez toi à Caen dans des conditions bonnes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'après une petite accalmie, si j'ose dire, dans la dramaturgie de Bond en France, en 85, tu t'es attelé à deux textes, L'imbécile et Été remonté, également à Bourges, par Jeanne Champagne, avec la dramaturgie de Martine Milon.
La première pièce de Bond que j'ai montée est une pièce qui curieusement, est peu connue, alors qu'on connaît bien, on commence à bien connaître Sauvé, Il y a plusieurs mises en scène d'été, d'autres pièces de Bond sont plus connues. Et à mon sens, cette pièce qui se nomme The Fool, qu'on a traduit là aussi avec quelques difficultés par le terme l'imbécile, cette pièce est pour moi magistrale dans l'œuvre de Bond. Il parle de l'artiste et comment est l'artiste dans la société. Mais bien sûr, il le fait, encore une fois, à travers un contexte très particulier. L'artiste en question est un jeune poète anglais qui a vécu, qui s'appelle John Clare. Et John Clare était ce qu'on appelle un poète paysan. C'était un garçon presque illettré qui écrivait des poèmes ou qui imaginait des poèmes plutôt, et qui un jour a été remarqué par une grande bourgeoise anglaise. John Clare a été emmené à Londres. On en a fait une image de salon littéraire. Cet homme s'est évidemment étiolé, détruit dans ce contexte-là. Et devant cette inadaptation de John Clare à la société littéraire et intellectuelle londonienne, le poète paysan est renvoyé au bout de peu de temps là, dans ses lieux d'origine. Et à ce moment-là, il n'est évidemment plus rien. Il n'est plus l'homme du tout qui a quitté cet endroit. Et il entame un chemin épouvantable vers la folie et donc vers le silence et bien sûr vers la mort. Et on retrouve évidemment dans cette pièce de Bond absolument tous les thèmes dont on a parlé, les thèmes du cannibalisme qui ont été évoqués, ceux du retour des morts. Presque dans toutes les pièces de Bond, on revoit des morts qui n'arrêtent pas de revenir mourir et de revenir tirer les pieds des vivants, de revenir habiter non seulement les rêves, mais les actions pratiquement les plus quotidiennes des vivants. Cette pièce, l'imbécile, en fait, son contexte dépasse très vite la question simplement de cet artiste qui ne peut absolument pas, de ce poète, qui ne peut pas du tout trouver sa place dans cette société, puisque Bond l'inscrit dans les révoltes paysannes qui ont eu lieu dans ce qu'on a appelé, l'enclosement, c'est-à-dire cette période où les nobles, assistés de la grande bourgeoisie, se sont mis à confisquer les terres, privant les paysans de leurs chasses et pêches naturelles, des herbages de village qui de tout temps appartenaient à la communauté, et où le monde paysan a été, d'une certaine façon, complètement mis en esclavage de fait dans la société anglaise. Et bien sûr, cette poésie paysanne se trouve complètement agglomérée à cette violence. Et il y a une scène dans L'Imbécile très particulière où les paysans, complètement survoltés, se retrouvent dans la forêt pour essayer de chercher une façon de contrer les nobles qui confisquent les terres. Et il y a le pasteur du village, qui bien sûr est très, très aux bottes des nobles, passe par hasard dans cette forêt. Et ces paysans déshabillent ce pasteur. C'est une scène terriblement violente. Ils mettent cet homme, cet ecclésiastique, avec son col et tout, ils le mettent à nu et ils le regardent et ils s'étonnent simplement de la qualité de sa chair, de la mollesse de sa chair et de sa tendresse. Et ils ne lui font rien d'autre. Voilà. C'est une torture, mais Bond dit quelque chose de très intéressant.
Torture sadomasochiste.
Il dit, écoutez, je vais vous lire ce qu'il écrit. Il écrit, « Ne précipitez pas le déshabillage du pasteur, ça leur prend du temps pour oser le faire, du temps pour oser le toucher. Il faut que Darkie, qui est un peu le meneur de la bande de ces paysans, il faut que Darkie démontre qu'il est possible de retirer des choses au pasteur sans être foudroyé par le feu du ciel. » Il faut qu'ils soient comme des gens qui profanent une église. Qui jettera le premier une pierre dans le vitrail? Qui osera le premier se mettre debout sur l'autel? Il continue un peu plus loin en disant « Le pasteur a été changé par l'incident du déshabillage. Il est plus creux et plus froid. Et cela le rend, bien qu'il ne saurait s'en rendre compte, plus méchant et plus dur. C'est maintenant un mort-vivant, totalement corrompu. Il parcourra toute sa routine quotidienne et n'en changera pas un instant. » Il mangera toujours du mouton à la sauce aux pommes le dimanche, mais il pense que son esprit tout entier est changé. Ce sont seulement ses illusions qui ont disparu, et il dissimule sa nouvelle nudité à l'aide de mensonges. Ainsi considère-t-il la vie en termes de théologie. Il est devenu un monstre chrétien. » Dans ce court passage, on a une indication très, très, très forte de Bond sur la façon dont on doit aborder la violence dans son théâtre. Comment faire, en effet, qu'elle soit toujours au service de cette complexité et pas du tout comme des éléments purement provocateurs.
Salut, bonnes gens. Et maintenant, un triple hourra.
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 Chose pareille, jamais on ne vit. À ma mort, j'étais vif comme 7 chats, et maintenant, comme 17, je revis. Où sont-ils ces Espagnols qui s'étaient si bien vantés haut? Car ils mangeront les plumes de l'oie grise et nous mangerons le rôti haut. En tout pays, au pays où nous irons.
Tire la corde, tire-la bien haut, car nous sommes debout dès la pointe du jour. Pour chanter pour le bel été et le joli méo.
Car... J'en ai plein le cul. Mais tu nous suis toujours, garçon.
Bah toi que suis, tiens après John.
Qu'est-ce qu'il y a, garçon?
T'en as entendu parler? Ils sont en train d'abattre la forêt pour faire des champs.
Quoi, garçon?
Milton veut la terre pour faire du grain.
Pourquoi ça?
Oh. Le vendre aux garçons de la fabrique. Eux, ils en font pas pousser du grain.
Mais pas autant.
Ouais. Plus. Ils vont détourner la rivière et assécher le marais communal.
Ah, tout ça, c'est des vieux racontards pour faire peur.
Oh, hein? C'est vrai, garçon. Ils ont vu des types ce matin faire le tour des champs avec des chaînes et écrire dans des livres. Inscrire la rivière dans les livres.
Et la forêt.
Toi, t'en as entendu parler, la fille? Comment s'en sortir avec une rivière? Détourner la rivière.
On y fait un barrage et on la sèche, garçon.
Peut pas. C'est autant la nôtre que la sienne. Les marais et les arbres? Ça veut dire quoi, garçon? On va perdre notre pêche, notre bois, les vaches? Sur le marais communal? Comment on vivra? Pas sur les quelques shillings qu'ils nous payent pour travailler leur terre. On a besoin d'un bout de terre à nous.
Hey, s'ils nous prennent toute la terre, faudrait qu'ils nous payent un salaire convenable, hein?
Comme aux garçons de la fabrique? Ils touchent un salaire convenable?
Ah, ils m'en proposeront même pas du travail. J'ai trop souvent ouvert ma gueule.
Ah! T'en voudront pas pour ça?
Non.
Mais parler, c'est pas un crime.
I would like to say something, finally, really, about, you know, why I write plays. We are now living in something which began, 300 years ago, something like that, the Enlightenment. Because we have the machines of the Enlightenment, we have the tools. We wouldn't have our technology if it wasn't for the Enlightenment. Those ideas were inadequate. Sometimes they were misunderstood. Perhaps, for instance, Marxism misunderstands the possibilities of the Enlightenment in some way. But nevertheless, those
finalement, j'aimerais dire quelque chose sur la raison pour laquelle j'écris des pièces. Le problème qui s'oppose au monde aujourd'hui, c'est que nous vivons dans ce qu'il faut bien appeler la suite du siècle des Lumières. Nous en avons les instruments, la technologie, les idées. Certaines de ces idées sont inadéquates ou mal comprises. Par exemple, le marxisme a mal interprété les potentialités des Lumières. Néanmoins, ces idées ont permis une société plus juste et une meilleure compréhension du monde dans lequel nous vivons. Le danger maintenant, c'est de disposer des instruments modernes et d'une philosophie du Moyen-Âge. Ce serait grave. Par ailleurs, j'appelle mon théâtre rationnel. Pourquoi ? Il ne suffit pas, comme dans le théâtre de Brecht, de poser comme postulat que comprendre le problème, c'est entrevoir la vérité. Notre vrai problème, ce n'est pas le mal, c'est l'innocence. Nous devons comprendre l'esprit dans toutes ces tensions, ces tentatives pour exister à travers le mensonge. Ibsen disait que le mensonge était nécessaire et que l'homme ne pouvait vivre avec trop de vérité. Moi, je crois que nous ne pouvons pas supporter trop de mensonges. Probablement en faut-il un peu pour vivre. Aujourd'hui, nous vivons dans des systèmes sociaux qui nous en imposent de plus en plus.
Un
Edouard Bond, une dramaturgie en boucle. L'enfant et l'imaginaire. Avec Michel Dubois, Martine Millon, Claude Régis, George Wilson, et avec la participation de Henri Béard, Éric Kahan, Gabriel Monet, et avec Christine Friedel et des spectateurs du Théâtre de la Ville. Et, traduite par Micheline Atoun, une interview exclusive d'Edouard Bond. Deuxième partie, le 2 mars, L'homme en colère. Mixage, Gérard Servet, Mireille François. Mégaphonie, Lucien Atoun, Nicole Vuillaume. Et la collaboration de Frédéric Arboué.
C'était L'enfant et l'imaginaire, le premier de deux épisodes de la série Edouard Bond, une dramaturgie en boucle, pour Mégaphonie, dans les Mardis du Théâtre par Lucien Atoun et Nicole Vuillaume, diffusé pour la première fois le 23 février 1993 sur France Culture. À suivre.